Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis. Et nous avons sans grief contre lui.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Je vois pas le rapport avec la Bretagne, votre émission de vulgarisation militante avec vos deux animateurs préférés, Shona.
Salut.
Et moi, Morgane. Tous les mois, vous aurez cette émission sous le signe du ravachol et tous les mois, l'émission parlera d'un thème. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qu'on n'a pas du tout abordé encore dans cette émission. On va parler de pédagogie et surtout de la pédagogie freinée avec un invité. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Alors Patrick, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu?
Eh bien, je suis Patrick Laurenceau, je suis retraité de l'éducation nationale aujourd'hui, mais j'ai exercé comme instituteur dans le Loir-et-Cher et très tôt selon les techniques freinées.
Donc on va commencer par une petite présentation du coup générale de notre sujet. Donc Patrick, dis-nous qui est freiné, comment en est-il venu à cette pédagogie et qu'est-ce qui fait la pédagogie freinée?
Alors Freiné, il est né en 1896, donc tout jeune, à la sortie de l'école normale, il se retrouve plongé dans la guerre de 14-18. Il y est blessé grièvement et à la sortie de la guerre, donc il se retrouve dans une classe à Bar-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, et il a du mal à parler. Alors, il cherche à faire classe autrement. Et il se met donc au milieu de ses élèves et puis il leur propose des activités d'expression libre, particulièrement le texte libre, et puis organise des classes promenades pour découvrir le milieu naturel et le patrimoine local. Mais en même temps, il se dit que si les jeunes comme lui sont partis à la guerre, c'est qu'on les a formés pour y aller. Et donc, il s'interroge sur le contenu de l'école, et en participant à la Fédération unitaire de l'enseignement, un syndicat révolutionnaire, dont la revue était l'École émancipée, eh bien, il réfléchit avec d'autres camarades sur quelle école, pour quelle société. Et il va s'intéresser à ce qui se passe au niveau européen, c'est l'émergence de ce qu'on appelle le mouvement d'éducation nouvelle, avec des gens comme Cousinet, de Croly, etc., Montessori, et se met à voyager aussi en Allemagne, à l'école libertaire de Hambourg, dans l'Union soviétique naissante. Et de toutes ces expériences, eh bien, il essaye d'en tirer profit pour changer les pratiques pédagogiques. Et il va ainsi, avec d'autres instituteurs, créer un mouvement autour de lui, dont la première forme sera le premier congrès des imprimeurs dans le cadre de la fédération. Pourquoi le congrès des imprimeurs? C'est que par la pratique du texte libre, l'intérêt, c'est que le texte ne devienne pas une pièce poubelle qu'on va jeter, mais soit véritablement communiqué. Et c'est comme ça qu'il développe le journal de classe et l'imprimerie pour pouvoir le créer concrètement, matériellement. Et en fait, la pédagogie freinée naît à partir du texte libre, de l'imprimerie, de la classe promenade.
Merci Patrick. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment se pratique freinée dans quelle école primaire, j'imagine, de ce que tu nous dis du coup? Comment se pratique freinée? Par quelle méthode? Voilà, je te laisse libre ta réponse.
Alors, freinée, sa vision, c'est transformer l'école avec une visée émancipatrice pour une autre société. En même temps, il se dit, je suis pour une transformation révolutionnaire de la société, mais en attendant que la révolution ait lieu, il ne faut pas perdre de temps, il faut déjà se mettre au travail. Et enfin, il part du principe que l'enfant doit être considéré comme une personne, comme un sujet, que ce n'est pas une page blanche que l'on va, à qui on va déverser un savoir, mais qu'il a de l'énergie vitale, du désir, de la curiosité, une sensibilité, des goûts, des opinions, que chacun a ses rythmes, et que donc il faut utiliser cette puissance créatrice dans la classe. Comment ? Eh bien, en le rendant actif et en lui permettant de s'exprimer librement. Et donc, ce que va développer Freinet, c'est la méthode du tâtonnement expérimental. C'est-à-dire par l'expérience, par le tâtonnement, par le fait de commettre des erreurs, mais de revenir sur ces erreurs. L'erreur, dans un processus d'apprentissage, c'est non pas... Ça ne doit pas être considéré comme un échec, mais au contraire, c'est ça qui permet d'avancer dans l'apprentissage. Et donc, il défend donc ce principe du tâtonnement expérimental. Et en même temps, il défend l'idée de ce qu'il appelle la méthode naturelle. La méthode naturelle d'apprentissage. C'est-à-dire, il a observé sa fille, Baloulette, quand elle était petite. Et sa fille...
Elle s'appelle vraiment Baloulette ?
Oui, elle s'appelle Baloulette.
La pauvre.
Elle s'appelait parce qu'elle est décédée. Ah. Et Baloulette, fille de Célestin et Élise Freinet, Baloulette, il a observé dans sa façon d'apprendre à lire. Et il se dit, mais ma fille, elle apprend à lire naturellement comme elle a appris, comme on apprend à faire de la bicyclette naturellement. Et donc, à partir de cette observation, il lance donc l'idée que on peut apprendre à lire, écrire, compter de cette façon-là. Et donc, il va, avec ses camarades, il va prôner la méthode naturelle d'apprentissage, notamment de la lecture, mais aussi du dessin, de la danse, dans tous les domaines. Alors le problème, c'est que si le désir, si c'est fondé sur effectivement le désir de l'enfant, il faut donc que l'éducateur, dans ce cadre-là, s'appuie sur un principe qu'on appelle le principe de dévolution en didactique. C'est Guy Brousseau qui définissait ça comme cela. C'est un acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité d'une situation d'apprentissage ou d'un problème et accepte lui-même les conséquences de ce transfert. C'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant, en tant qu'éducateur, accepte que l'enfant produise, prenne en compte ce qu'il produit, prennent en compte ce qu'il veut faire comme activité, dont le rôle de l'éducateur dans ce cadre-là, c'est d'organiser matériellement tout ce qui est possible de faire dans une classe et en dehors de la classe.
D'accord.
Et tout à l'heure, tu nous parlais de Montessori. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les différences qu'il y a entre la pédagogie ?
D'autant oui, alors... que tu nous as parlé du maître d'école comme un éducateur, et il me semble qu'il y a une énorme différence là-dessus au niveau de Freinet et Montessori, que le maître ou l'éducateur, du coup, n'a pas la même position. Donc explique-nous tout ça, Patrick.
Quelles sont les différences entre les deux ?
Alors, l'approche de Montessori, c'est une approche constructiviste, c'est-à-dire c'est une approche de l'épanouissement individuel de l'enfant. C'est-à-dire part du principe que l'enfant porte naturellement en lui toutes les potentialités et que donc il suffit de le mettre dans un cadre, dans un environnement favorable, avec un matériel essentiellement tactile et des objets concrets pour qu'il se mette à explorer, à découvrir le monde et finalement à apprendre. Montessori insiste beaucoup sur le fait qu'il faut laisser faire les choses seules pour l'enfant. Bon. Donc l'éducateur est en retrait par rapport à cela, en tout cas dans un premier temps. Chez Freinet, il y a bien sûr une approche aussi constructiviste, mais il y a quelque chose qui est très très important chez Freinet, c'est que le désir de l'enfant ne peut être comblé que si il se fait avec ses pairs, s'il se fait dans un cadre collectif, avec des échanges. C'est pour ça que Freinet a développé le conseil coopératif dans la classe. C'est-à-dire que l'enfant pouvait travailler individuellement sur des choix, par exemple, précis en mathématiques, etc., en français, Mais il pouvait organiser son propre plan de travail de façon individualisée. Mais il y avait des moments où il rendait compte de son travail, de ses activités au groupe. Et il y avait des échanges. Il y avait un échange critique au sens propre du terme. Il y avait aussi des échanges avec l'extérieur, par la correspondance, par les voyages. Donc, en fait, la pédagogie Freinet, c'est une pédagogie qui est une pédagogie individualisée et sociale à la fois. Ce qui n'est pas exactement le cas dans les premiers apprentissages, en tout cas chez Montessori.
D'accord, donc Montessori, c'est plus individualisme, disons.
C'est une priorité, dans un premier temps, l'éveil sensoriel.
D'accord.
Voilà. Et par exemple, je peux quand même dire, si Freinet, au début, était intéressé, était assez enthousiaste par la pédagogie Freinet, en avril 31, il s'insurge, en fait, contre ce qu'il considère comme une dimension élitiste de la pédagogie Freinet. Et puis aussi, ses connivences avec le régime fasciste, dont on ne parle pas.
Tu parlais plutôt de Montessori, là.
Oui, je veux dire, Freinet...
Pas de souci.
Pardon, excusez-moi, j'ai peut-être été trop vite, mais Freinet s'en est pris ensuite à Montessori, notamment quand elle a commencé à pactiser avec le régime de Mussolini. Mussolini était le président d'honneur de son mouvement.
Ah oui.
Bon, il faut quand même le savoir. Elle a rompu avec Montessori en 1939 parce qu'il voulait imposer l'uniforme fasciste pour les enfants. C'est ça qui a fait qu'elle a dit non. Mais sinon, avant... Elle était soutenue dans le cadre de la société fasciste italienne.
D'accord.
Par le régime. Et je voulais simplement dire ceci, c'est que Freinet dit « La nouvelle éducation s'oriente franchement vers l'éducation des enfants bourgeois », alors qu'au départ, elle s'occupait des enfants pauvres, plutôt. Mmh. « Et la préparation pédagogique des mères bourgeois, qui ont quelques rejetons à choyer, conseil excellent pour ceux qui peuvent les suivre, réunion de mères, organisation d'écoles nouvellement riches payantes, prix au lit, etc. » Et il dit « Le danger qu'il y a à suivre Madame Montessori et ses admirateurs, quel que soit l'apport pédagogique de sa méthode, l'éducatrice italienne intégrée au fascisme, asservie à l'Église, ne peut pas servir d'éducation du peuple. » Donc voilà.
Donc, plutôt raison.
Et ben, avant qu'on passe à plutôt parler de ton ressenti, toi, comme tu as été instituteur, etc., ton ressenti sur comment utiliser, etc., cette méthode, on va faire une petite pause musicale, comme à notre habitude.
Avec un petit classique.
Another brick in the wall.
We don't need no education. We don't need no thought control. Sarcasm.
Donc, on se retrouve après Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Donc, petit classique. Et on va revenir sur Freiné et son éducation, du coup. Donc, Patrick, toi qui étais instituteur, qui a utilisé la méthode Freiné, dis-nous, comment en es-tu venu à utiliser cette méthode? Quel a été ton parcours? Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans cette méthode? Peut-être y a-t-il eu des événements où tu t'es dit que la méthode classique, entre guillemets, ne marcherait plus? Enfin bref, dis-nous tout.
Eh bien, je suis pas un enfant de la guerre de 14-18, je suis un enfant de 68. Enfin, en 68, j'avais 18 ans. Et donc je suis rentré en 68 en politique, quoi. Mmh. En même temps, je devenais instituteur en 73. Je me suis retrouvé dans une classe unique, c'est-à-dire où j'avais tous les élèves de l'âge de 5 ans à l'entrée au collège, dans la même classe. Ce fut mon premier poste. À ce moment-là, à l'école normale, on n'avait pas parlé de pédagogie Freiné. Donc, poussé par le type de classe dans lequel j'étais, j'étais bien obligé d'organiser l'autonomie des élèves, l'individualisation du travail. Je ne pouvais pas travailler avec tous les niveaux en même temps. Je faisais des fiches, etc. Et puis, il se trouve que j'étais marié à l'époque à une professeure certifiée de français qui me dit un jour, mais tu sais ce que tu es en train de faire. Il y a une pédagogie, un mouvement pédagogique qui peut offrir des outils. Et donc, c'est comme cela qu'elle et moi, d'ailleurs, dès 1975, à mon retour du service militaire, j'ai fait un stage Freiné régional. Et puis ensuite, j'ai été dans les congrès nationaux. Depuis, j'ai bien entendu, j'ai rejoint le groupe départemental Freiné qui existait depuis longtemps. Et donc, depuis ce jour, eh bien, effectivement, par la co-formation à l'intérieur du mouvement, eh bien, j'ai développé le texte libre, le dessin libre, la musique libre, la méthode naturelle d'apprentissage, le conseil coopératif, la vie coopérative, la correspondance, voilà, dans les classes dans lesquelles je me suis retrouvé par la suite. Et il y a une expérience qui m'a vraiment marqué, c'est mon expérience d'enseignant dans la ZEP, zone d'éducation prioritaire, parce que m'étant retrouvé comme formateur, suite à une décision du groupe départemental, parce que on ignorait l'école normale, mais à un moment donné, on s'est dit comment on peut arriver à avoir des liens avec les futurs instituteurs et institutrices. Donc du coup, on s'est posé la question de est-ce qu'il ne faudrait pas que parmi nous, il y ait un formateur. Et donc, je suis devenu formateur en même temps. Et du coup, je pouvais accueillir, mais mes camarades qui n'étaient pas formateurs accueillaient aussi. Je pouvais accueillir des stagiaires et essayer de faire en sorte que la pédagogie Freiné se développe dans le département.
Quel résultat, du coup, as-tu pu constater sur les enfants? Je suppose que c'était bien mieux, du coup, pour les enfants d'utiliser cette méthode-là.
Je vais raconter une anecdote, une expérience très, très précise, mais je pourrais parler d'autres expériences. J'ai eu un élève qui, mes collègues me l'ont présenté en disant « Écoute, on n'arrive pas à le faire lire et écrire. Toi qui es en CM1, CM2, est-ce qu'on pense que peut-être il sera mieux dans ta classe ?» Bien. Alors qu'ils étaient plutôt critiques vis-à-vis de ma pédagogie. Hein. C'était des vieux instits. Et je l'ai pris. Et cet enfant, je lui ai dit, écoute, voilà, moi je ne t'oblige pas à essayer de lire, écrire, puisque pour l'instant, ce n'est pas ça qui t'intéresse. Mais je suis sûr qu'il y a des choses qui t'intéressent, que tu veux faire des activités. Et puis ici, tout est possible. Tu peux dessiner, tu peux faire de la musique, tu peux fabriquer des choses. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Donc voilà, il s'est mis à faire des activités. Et puis, je lui ai dit, si tu as envie, tu pourras les présenter aux autres. Et donc, le matin, au coin de neuf, certains matins, il présentait ce qu'il avait fait. Puis un jour, en conseil de coopératif de la semaine, il dit, oui, il y a un journal de classe, mais moi, comme je ne sais pas écrire, alors que j'ai des histoires à raconter, J'aimerais bien. Mes histoires ne peuvent pas, ne sont pas dans le journal. Donc je dis au groupe, je dis, mais alors comment faire? Et il y a un autre élève qui s'est présenté comme son écrivain public, c'est-à-dire qui a dit, bah, écoute, tu as des histoires, je te les écris, et puis on choisira pour le journal, si ça plaît au groupe. Donc j'ai laissé le temps. Je savais qu'il y avait un blocage. Bien sûr, j'en discutais avec la psychologue, j'en discutais avec le rééducateur, mais on avait décidé de lui laisser le temps. Valorisé, alors qu'avant, dans les autres classes, il était relégué au fond de la classe. Cet enfant-là a même été battu par un instituteur. Hein, considéré comme élève méchant sur le dossier scolaire du cours préparatoire. Eh bien, cet élève-là, un jour, je me suis rendu compte qu'il savait lire. Un jour, il arrive dans la classe, en retard. Je lui demande d'où tu viens. Il m'explique qu'il vient de là, qu'il avait ramassé des escargots. Bon, il venait de pleuvoir, etc. Et je lui dis, mais où as-tu ramassé les escargots? Il me dit, tu sais, c'est en dessous du panneau là, électoral. Je crois que c'était une affiche de la campagne de Mitterrand, le village. Je me souviens de ça. Alors, je lui dis, ben, comme moi, j'allais chercher mon pain à la sortie de l'école, je lui dis, écoute, je vais t'accompagner, tu me montreras où est-ce que tu as pris les escargots. Parce que je voulais savoir un peu quand même ce qu'il avait fait. Et puis, on arrive sous le panneau, et puis, ben, je dis, ah oui, c'est là, les escargots, t'as pris. Et mais au fait, tu m'as parlé d'un panneau, là. Ben oui, il y a un panneau, là. C'est quoi, ce panneau? Et puis, il me dit ce qu'il y a sur le panneau. Mais moi, je me suis dit, on lui a dit. Mais non, en fait, je lui fais lire quelque chose qui était sur le côté. Et il me dit, je lui dis, non, tu sais ce qu'il y a de marqué là? Puis il me le dit. Bon, je dis, excusez-moi, je ne vais pas dire son prénom. Je lui dis, écoute, je pense que tu sais lire. Et ben, cet enfant-là, après, en charge avec le rééducateur et la continuité du travail en classe, où là, on l'a fait beaucoup plus travailler sur la langue écrite, eh bien, lorsqu'à la fin de l'année, des deux années, j'ai reçu une écrivaine qui s'appelait Luce Filleul. Eh bien, c'était l'élève qui posait le plus de questions pertinentes sur son roman. On lui avait laissé le temps, on l'avait aidé pour le lire, etc. Eh bien, j'estime par... et je pourrais donner d'autres exemples, notamment d'exemples d'enfants dyslexiques qui sont mis de côté, où l'institutrice ne sait pas quoi faire. C'est une institutrice dans ce cas-là. Elle ne savait pas quoi faire. Eh bien, j'ai pris en charge cet enfant-là, et cet enfant-là, elle a pu aller au brevet, elle a pu continuer ses études. Donc, oui, la pédagogie freinée permet à tout enfant, et particulièrement aux enfants qui sont les plus en difficulté, à se dire, oui, c'est possible, je peux le faire.
D'accord.
C'était une très belle histoire.
Moi, j'en ai eu un peu des frissons à un moment, au moment du panneau.
C'est très,
Patrick, ouais. Tu sais très bien raconter les histoires.
Mais du coup, ça marche, ça fonctionne, cette pédagogie. Mais est-ce que c'est facile à mettre en place? Et toi qui as été enseigné en Égypte le français, est-ce que tu l'as fait là-bas aussi? Est-ce que tu l'as pratiqué là-bas aussi?
Oui, je l'ai pratiqué en partie, certainement beaucoup moins... Pas comme en France, parce que là, il s'agit d'enseigner le français comme langue étrangère. Donc, c'est beaucoup plus axé sur, effectivement, la langue. Mais, justement, le texte libre, je l'ai pratiqué. Le travail sur des outils qui ont été fabriqués de lecture, freinés, je les ai utilisés. J'organisais des conseils, j'organisais des débats, des recherches sur des thèmes, etc. Donc oui, disons que en plus la structure faisait que j'étais pas dans les mêmes conditions. Mais ici en France, si on veut rentrer dans les techniques et l'utilisation des outils freinés. C'est de commencer par faire des petites choses là où on se sent bien en tant qu'enseignant. Et il y a un livre qui s'appelle « Entrer en pédagogie freinée » d'une camarade, Catherine Chabrin,
aux éditions Libertalia,
qui justement montre comment on peut entrer dans la pédagogie freinée.
D'accord.
Tranquillement, doucement, tout en sachant que les meilleurs garde-fous, c'est d'avoir des liens avec des camarades qui pratiquent cette pédagogie-là depuis plus longtemps. Et c'est pour ça qu'il est toujours conseillé à celles et ceux qui veulent effectivement entrer dans la pédagogie freinée prendre contact avec leur groupe départemental. Et dans Loir-et-Cher, il existe un groupe départemental freiné.
Patrick, dis-nous également, est-ce que c'est pas trop dur au niveau des collègues que tu as pu avoir? Est-ce que tu ne t'es pas pointé du doigt, mal regardé, du fait d'utiliser une autre pédagogie que sans doute la leur, quand tu ne travaillais pas avec d'autres éducateurs freinés, bien entendu? Est-ce que ça a pas
été... Je me suis souvent retrouvé tout seul dans une école à pratiquer la pédagogie freinée. En général, ça se passait bien avec les parents, même très bien. C'était très rare que ça se passait mal. Je n'ai pas eu de difficultés avec les parents, par exemple. Mais il faut se dire que je les invitais régulièrement dans l'année, pas une fois dans l'année, à la fin du trimestre ou à la fin de l'année. Quand ils voyaient les enfants présenter leur propre activité, je veux dire, ils étaient tellement soufflés que ça marchait très bien. Donc, par rapport aux collègues, on a eu une expérience d'une partie d'école qui a fonctionné en pédagogie freinée. C'était sur la Croix-Chevalier. Bon, alors là, c'est sûr que c'est plus facile. Ça pose aussi des problèmes parce qu'il y a une autre partie de l'école qui travaille autrement. Donc, il faut quand même aussi s'entendre avec les collègues. Mais c'est au début, quand j'ai commencé à enseigner, c'est là où j'ai rencontré des remarques quoi, sur ma façon de faire. Hein. Par exemple, quand je suis revenu d'une exposition Pollock et puis que j'ai parlé de ça, un coin de neuf à mes élèves, et que mes élèves ont voulu faire du Pollock. On a fait ça sous le préau. Le Pollock, il faisait de la peinture par projection.
D'accord.
Et donc, vous imaginez, quand j'ai organisé ça sous le préau, sur des feuilles, grandes feuilles craft, où des élèves avec en blouse bien protégés se lançaient le truc, quand mes collègues ont vu cela, ils se sont dit, un, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de l'art. Et deux, ça ne m'étonne pas, c'est Laurenceau qui propose ça à ses élèves. Bon, voilà.
Est-ce que tu penses que cette pédagogie, du coup, peut être également appliquée aux classes de collège ou aux classes à examen? Donc, par exemple, en sixième, j'imagine que ça peut être possible, mais en troisième ou même au lycée, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place, non?
La pédagogie freinée, dans le groupe départemental, je sais qu'il y a eu des profs de collège, il y a encore des profs de collège qui... participent à la vie du groupe et enseignent avec des techniques freinées et des outils freinés. Au niveau national, il y a même un lycée et collège freiné. Je crois que c'est à Fos-sur-Mer. Il y a les lycées expérimentaux comme à Saint-Nazaire, etc.
Ouais, ou lycées autogérés.
Les lycées autogérés qui se réclament plutôt de la pédagogie freinée. Donc c'est tout à fait possible. Dans les lycées, les collèges, bien entendu, il y a le poids du programme, notamment plus on se rapproche du bac. Mais il y a la façon de faire. C'est-à-dire, bien entendu, si on organise l'expression libre, hein, si on organise l'organisation du travail selon des plans de travail individualisés, si, pour prendre en compte l'hétérogénéité de la classe, si on fait en sorte que la vie de la classe, les apprentissages sont discutés collectivement par le biais de conseils de classe, hein, voire dans le conseil d'école, je pense que oui, il est tout à fait possible de pratiquer la pédagogie freinée, y compris à l'université. Moi, j'ai connu un universitaire, membre du mouvement freiné, qui se réclamait de la pédagogie freinée à l'université.
Donc, pour aller plus loin, on va devoir terminer maintenant, mais aller plus loin au niveau de la pédagogie freinée, on a notamment d'excellents ouvrages de Libertalia dessus. Donc, Patrick en a présenté un, donc Introduction à la pédagogie freinée. Il y en a également d'autres. Il y a toute une collection qui s'appelle Notre École, il me semble, chez Libertalia, où ils vont parler de pédagogie alternative, de plusieurs pédagogues et beaucoup de freinés.
De toute façon, vous aurez tout dans le lien de l'article du podcast.
Voilà.
Vous aurez toutes les sources, tous les liens pour aller se renseigner là-dessus.
Patrick nous montre également un autre livre. Dis-nous tout, Patrick, dessus.
Il y a un livre qui vient de sortir, il s'appelle Le Dictionnaire de la pédagogie freinée, et auquel j'ai participé, d'ailleurs. Et
on a une célébrité.
Et donc, décline des thèmes très précisément. La création mathématique, la création artistique, la classe promenade, l'apprentissage par méthode naturelle de la langue. Voilà.
Très bien, Patrick.
Bah, merci beaucoup.
Donc, on espère avec cette émission avoir titillé votre curiosité et que vous irez vous renseigner sur Freinet également après. Morgane, je te laisse parler du Ravachol de ce mois-ci.
On rappelle que le Ravachol est en vente ce mois-ci avec un sujet sur la vulgarisation de l'histoire. C'est ça. Donc la vulgarisation, c'est ce qu'on fait ici, c'était parler de sujets compliqués plus simplement.
Sauf que là, ça sera mieux fait parce que c'est Nota Bene dans le Ravachol.
C'est Nota Bene, une petite interview de Nota Bene qui est un vidéaste sur YouTube qui parle très bien d'histoire. Et donc, avant de... Bah déjà, merci beaucoup Patrick d'avoir
accepté de participer
accepté
à l'émission.
Notre invitation.
Bah, merci pour votre invitation.
Merci voilà. Patrick.
Et avant d'écouter Kenny Arcana pour sa chanson L'usine à adultes, Shona, j'avais une dernière question. Je sais que la dernière fois, ça, c'était dur pour toi. D'accord ? Là, il va falloir que... Fléau, tu peux pas la tenir pour qu'elle évite de... Non ? Ouais, non, moi aussi, elle me fait peur. Shona, je vois pas du tout le rapport avec la Bretagne.
J'ai rien fait, moi ! J'ai rien fait !
Puis l'enfance, on nous balance. Puis l'enfance, on nous balance. Depuis l'enfance, on nous balance des choses qui rendent fous. Inutile, style, fil dans le moule. Excuse, mais je m'en fous. À l'école, tais-toi, la garçon, détingue et tapant. Il faut des diplômes et de l'argent, sinon la galère t'attend. Y'a des horaires pour s'amuser, d'autres pour le sérieux. Tout est imposé, alors puis toi, tu choisis rien. Veut tout le monde ou pas. Tu te rends compte ou pas qu'on nous traite d'une façon. Si tu refuses ces styles, oh, mais cela raconte quoi. Des petits, on nous met des barrières mentales en place. Et la spontanéité juvénile et la pureté sans crasse. C'est formatage, emballage pour la vie d'adulte. Des petits en cours, la réceptivité. Tu sais que ça dure une heure non-stop, 36 heures par semaine où tu la fermes et tu gobes jusqu'à la vie active. Bref, le même protocole qu'on baissant, décœuré par la réflexion. Deviennent de bons moutons manipulables, passifs devant leur télévision, prêts à tout croire. Bon auditoire pour la propagation de leur grande foire politique, c'est le trou noir pour ma génération. La même histoire, vu que c'est le dollar que les gens vénèrent à fond. Enseignement obligatoire, format depuis qu'on est enfant. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une case t'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une case t'empêche de penser par toi-même. Entre dans la classe, prends place, le cul sur une chaise, pas bouger, telle une statue de glace. Si tu veux causer, tu lèves le doigt. Et si t'es pas d'accord, soit tu punis, soit tu prends sur toi. Mais si t'as plus droit, alors faut que tu apprennes leur leçon pour lâcher les tiennes. Car c'est du par cœur, robotisation, doucement on fait enfiler tes chaînes. Clic, clic, pour que tu sois un beau pion plus tard. On t'assujette, rentre dans la machine, façon soit tu rentres, soit tu pars. Et si tu pars, la galère t'attrape et t'inquiète, ils sont malins, ils ont pensé à tous ces bâtards. Classement, rangement, partout, dernier rang, d'ailleurs paraît qu'on y voit rien. Erreur, c'est dans le fond qu'on voit tout à l'heure. Parfois bafoué sans naturel, l'école entrée d'une avenue tout tracée. Où rares et dangereux sont les ruelles, institutions qui t'apprend dès le départ que dans ce monde le verbe être ne peut se conjuguer sans avoir. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une case t'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une case t'empêche de penser par toi-même. Tu te rends compte que l'éducation ne considère les gamins que comme de futurs adultes, de futurs outils babyloniens. On leur fait apprendre non pas pour leur enrichissement personnel, mais pour qu'ils déteignent de la bonne couleur. Rentre dans les rangs, on mure ton cerveau dans cette classe. Chacun pour soi, on t'apprend à te battre pour la première place. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu souhaites, tout le monde doit avoir le même bagage qui s'emboîte avec le système. Et si tu sors du circuit, c'est le monde marginal. Galère, toc, strict, prison, police, bref, reine géniale. C'est ton choix petit, mais la rue n'est pas la meilleure école. L'école de la vie, l'école du voyage, pour moi la meilleure école. T'es petit, ne ferme pas ton esprit, vois les choses par toi-même. N'écoute pas tout ce qu'on dit dans tes livres, ce n'est qu'une parcelle de la vérité. Ce qu'on veut bien que tu saches, ne t'arrête pas à leurs écrits. Évalue, sois bien plus sage que... Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une classe t'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une classe t'empêche de penser par toi-même. Les petits, dans ce monde l'école c'est important, mais ne ferme pas ton esprit pour autant. Garde ton esprit critique, analyse et vois les choses par toi-même. Tombe pas dans leur piège, réfléchis et garde en tête que leur enseignement est formaté, donc que tout n'est pas dit. Et laisse-toi te modeler, comprends par toi-même, enrichis-toi et réfléchis toujours par toi-même. Toujours par toi-même.